France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, coup de chapeau à Louis Corchia, un des derniers géants de l'accordéon, à l'occasion de la sortie d'une compilation chez Marianne Mélodie. Pour en parler, je reçois Dany Lallemand, qui a joué dans l'orchestre Corchia, mais qui est aussi l'un des plus grands collectionneurs de disques de France et de Navarre. Louis Corchia sera également au téléphone dans quelques minutes. Mais d'abord, pour les Parisiens qui ont toujours beaucoup de mal à se déplacer, j'ai ressorti cette chanson qui nous rappelle que ce n'était déjà pas simple dans les années 30 et 40.
Pour me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre, 10 mois plus tard en revenant. Réquisition de ma 11 chevaux légère, strings fer botten, provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur, faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon top-top, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois d'avoir une moto à moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est beaucoup trop. Voilà qu'un jour on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Mais pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu tour à tour une douzaine, on me les volait périodiquement. Et comme chacun valait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro. Ça ne coûte pas très cher et il y fait chaud l'hiver. Alma, Iéna et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, ont dû fermer bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied aller-retour. Les Tuileries, le Pont Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si charmant décor. Hélas, bientôt je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne ressemble plus. Mais en homme prudent et perspicace, pour l'avenir, j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite, bien sûr, mais j'userai plus mes chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle à l'endroit. Pour peu que sur le trottoir, j'ai la chance de mettre la main en plein dedans. En plein dedans de la chose que je pense, je serai l'homme le plus content. Ça me portera bonheur et ça me donnera du cœur pour attendre patiemment ma future traction avant.
Voilà, on s'y croirait, toutes les combines qu'il faut trouver pour se déplacer dans Paris. C'était Georges Tabet, vous savez, l'alter ego de Jacques Pils dans le duo Pils et Tabet avant-guerre, mais là c'est juste après la guerre en 1945 avec l'orchestre de Marius Coste. Voilà, ça c'était l'introduction vive. On va maintenant passer à l'introduction langoureuse, et puisque nous sommes au temps des fêtes, eh bien c'est le temps bien sûr aussi de la valse viennoise.
La caresse, la promesse.
repos est long, des tendres violons. Mon cœur choisit avec vous, à que ce cœur, à que ce cœur.
Avez-vous reconnu ces deux très grands artistes lyriques d'avant-guerre? Non? Oui, peut-être? Eh bien, c'était Ninon Valin avec André Baugé dans un extrait, bien sûr, de La Veuve Joyeuse.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais nous avons rendez-vous maintenant avec, j'allais dire, avec Louis Corchia, parce que je tenais beaucoup à rendre hommage à ce grand accordéoniste dont un disque vient de paraître. Malheureusement, Louis Corchia est un peu souffrant et puis les difficultés de se déplacer à Paris n'ont pas arrangé les choses. Alors nous l'aurons quand même tout à l'heure au téléphone. Et puis je suis très heureux de recevoir mon autre invité, Dany Lallemand, qui a été membre de l'orchestre de Louis Corchia, qui connaît sa discographie par cœur, qui est en plus un merveilleux collectionneur de disques, qui va nous parler aussi de ses derniers travaux. Mais tout de suite, donc rendez-vous avec l'art musical de Louis Corchia.
Thank you.
Sentiment, une valse composée et jouée par Louis Corchia. C'est le deuxième titre de la compilation que vous venez de lui consacrer, Dany Lallemand. Bonjour Dany.
Bonjour Benoît.
Voilà, une jolie valse. Hein.
Oui, en collaboration avec Jacques Fèvre. Pour la petite histoire, Jacques Fèvre, il s'est fait appeler par la suite Tony Jacques, et c'était le remplaçant de Joe Privat ou Balajo pendant des années, des années. Et il a fait quelques disques sous le nom pseudonyme de Tony Jacques.
Voilà, et là c'est un titre donc de 1953, donc ça veut dire qu'il était tout jeune, Louis Corchia.
Donc 18 ans, voilà.
18 ans, ouais. Brillant, précis, inspiré.
Technique infaillible, et puis déjà le phrasé, tout y est quoi.
Voilà, alors moi ce qui me plaît beaucoup dans ce morceau, c'est pour ça que je voulais commencer aussi avec lui, c'est qu'il y a cette chose qui est relativement rare dans ces enregistrements de valse ou autre, c'est ce mélange avec le piano. En général il y a des guitares derrière.
Oui,
mais là,
des guitares manouches souvent.
Voilà. Là c'est le duo piano-accordéon qui est une formule, voilà, plus moins répandu, on va dire.
Oui, Louis Ferrari l'a fait quelques fois, entre autres, oui, mais là, Louis Corchia, oui. On a sans doute dû lui imposer à l'époque chez Vogue, mais c'est pas un reproche, c'est même plutôt, c'est Michel Ramos, pour la petite histoire, qui a fait la séance.
Alors, rappelez, parce que Michel Ramos, il a une histoire assez étrange, parce qu'il a deux noms. Hein.
Oui, c'est lui qui a fait, pour des questions de droit par rapport aux éditeurs, il avait un pseudonyme pour enregistrer à l'orgue chez Ducretet Thompson, sous le pseudonyme de Virginie Morgan.
Voilà, alors c'était Virginie ou Michel selon les disques.
Voilà, il était Michel Ramos chez Riviera, et il s'est même fait appeler après Patricia Lamour chez Pathé Marconi, toujours à l'orgue.
Voilà. Alors en tout cas, Dany Lallemand, merci oui d'être ici à nouveau, parce que je le disais, vous êtes le grand collectionneur de musique des années 50-60, vous avez tout. Hein.
De ce genre-là, oui, des années 30 à l'avènement des yéyés, oui, on peut dire que je balais une belle...
C'est grâce à vous que régulièrement Marianne Mélodie, Frémo et d'autres maisons de disques, depuis des années, ont sorti des quantités de compilations. C'est en grande partie avec votre discothèque. Hein.
J'essaie de faire revivre tout ça, oui, qu'elles servent à quelque chose.
Voilà.
Vu que je n'ai pas d'héritier, donc, enfin d'enfant en direct...
Ouais.
Qu'elle bouge.
Mais en réalité, votre passion de collectionneur est arrivée dans un deuxième temps, parce que vous êtes un musicien, hein, il faut rappeler, à l'origine. Hein.
Oui, mais j'ai toujours été collectionneur. Ouais. J'avais 8-10 ans, j'ai acheté déjà des disques de Georges Hulmer, d'Yves Montand, de Mouloudji. À 8 ans.
Vous les avez toujours, ceux-là?
Oui.
Oui.
Certains, j'ai dû les changer parce qu'ils étaient peut-être un peu usés, comme je suis un maniaco-dépressif.
Alors, combien de disques chez vous à Paris?
Tout support confondu, je dirais, je sais pas, 50 000.
50 000, oui, c'est pas mal.
C'est dur à stocker, oui.
C'est bien classé?
Bien classé, c'est d'un accès plus difficile déjà. Je sais où ils sont, après il faut y aller.
Ah oui, c'est ça. Et donc pour cette compilation consacrée à Louis Corchia, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, vous avez puisé principalement dans votre discothèque. Bah,
je ne fais les rééditions uniquement avec ma discothèque. Je ne fais jamais appel à d'autres collectionneurs.
Des intervenants extérieurs. Alors ça vient de paraître chez Marianne Mélodie, donc dans la collection d'ailleurs, les archives de l'accordéon, qui est votre collection, on peut dire, puisque c'est vous
une
qui
de mes collections, voilà, chez Marianne Mélodie.
Mais tout de suite, pour élargir simplement un tout petit peu eh bien, le panorama, je précise que vous avez sorti également il y a quelques mois, alors dans une autre maison, chez Frémo et Associés, une autre compilation qui s'intitule Les chansons du cinéma français. Il y a des petites merveilles là-dedans. C'était une commande ou c'était une idée de vous
C'est une idée que j'ai eue et qui a tout de suite été adoptée, enfin acceptée par la direction de chez Frémo, oui.
Voilà.
Quand ils sont quelquefois réticents, ils hésitent, mais là, ils ont dit oui tout de suite, ça leur a semblé une bonne idée.
Alors j'ai trouvé cette chanson que j'adore avec Martine Carole, c'est une musique de Vent Paris, ça?
Ah oui, celle qui est prévue que l'on passe tout à l'heure, une
oui,
musique
on va la
de Georges
Vent
Paris.
Oui. Alors on l'écoute tout de suite.
Voilà, si vous voulez.
Je suis la reine de ma bille, chaque soir on rigole Beauchamp. Parmi les danseurs du quadrille, je choisis un nouvel amant. Les dollars de tous les jobards, faut que ça saute, les Hidalgo et les Richard, faut que ça saute, prenons la pétard. Les diamants, les cœurs et les louis, faut que ça saute, et quand on se retrouve au nid, faut que ça saute aussi. Et quand on se retrouve au nid, faut que ça saute aussi. On me détaille à la lorgnette quand je jette mon pied par-dessus les moulins de toutes les galettes qui gaiement moulaient ma vertu. Les dollars de tous les jobards, faut que ça saute, les Hidalgo et les Richards, bah faut que ça saute, prenons la pétard. Les diamants, les cœurs et les louis, faut que ça saute, faut que ça saute. Et quand on se retrouve au nid, faut que ça saute, faut que ça saute aussi. Et quand on se retrouve au nid, faut que ça saute aussi. Ma gorge en relief se détache afin d'attirer les curieux. Quand belle on est, faut qu'on le sache, il faut faire un effort sérieux. Faut que ça saute, faut que ça saute. Ben faut que ça saute, prénom d'un pétard. Faut que ça saute, faut que ça saute. Faut que ça saute aussi. Mais la danse que je préfère, c'est la valse des picaillons. Tournez, tournez, les millionnaires, grisez-vous dans le tourbillon. Cascadons et virevoltons, faut que ça saute, dans un joyeux charivari. Faut que ça saute et que ça fasse du bruit. À quoi bon regrets et soucis? Faut que ça saute, faut que ça saute. L'amour passe et la vie aussi. Faut que ça saute et puis c'est fini. L'amour passe et la vie aussi. Faut que ça saute et puis c'est fini.
Martine Carole en 1954. Alors, c'est extrait, donc, Daniel Allemand, d'un film hein, qui s'appelait Nana.
Le film Nana, oui, réalisé par son deuxième mari, Christian Jacques, avec lequel elle a vécu plusieurs années, oui.
Voilà, sur une musique de Georges Vanparis, c'est des paroles d'Henri Janson, c'est pas mal. Hein.
Le dialoguiste du film, oui.
Voilà, et c'est donc une des raretés hein, que vous avez rassemblées dans ce coffret.
Celui-là n'est pas très rare, il y a un disque plus rare dans le CD précédent qui est paru sur un 78 tours rarissime, dont je ne me séparerai. Pour tout l'or du monde, je ne m'en séparerai pas.
Mais c'est quoi cet autre titre?
L'autre, ça s'appelle « Vous me faites rougir ». C'est du film « Nuit de noces », un film pas très, qui n'a jamais été réédité de Martine Carole, un film rare.
Voilà, en tout cas, tous ces titres, on les retrouve hein, dans votre anthologie, Les chansons du cinéma français. Il y a vraiment des merveilles là-dedans. Je me rappelle en avoir déjà passé quelques titres dans l'émission. Et voilà, c'est l'œuvre de Dany Lallemand qui compile, qui collectionne, qui rassemble par thème. Mais alors là, vous venez donc de réaliser une compile Louis Corchia. Alors ça avait un double sens parce que Louis Corchia, non seulement vous avez beaucoup de disques de lui, mais en fait, c'est une rencontre personnelle et musicale qui nous fait remonter assez loin en arrière.
Hein. Oui, j'ai eu l'honneur, le plaisir d'entrer dans son orchestre en février 1964. Vous voyez,
oui, ça ne rajeunit pas.
Oui, je venais d'arriver à Paris, j'avais tâté quelques orchestres, j'avais fait du pupitre.
Votre instrument d'origine?
Moi, je joue du saxo, tous les saxophones. Enfin, je faisais du pupitre à l'alto, au ténor, au baryton. Mais déjà à l'époque, je jouais de la flûte, ce qui n'était pas très courant pour les saxophonistes. C'était plutôt la clarinette qui était indispensable. Et je jouais du bandoneon, puis
ça fait déjà beaucoup d'instruments là que vous avez cité à la suite. Oui.
Et là, ça m'a permis de chanter beaucoup. J'étais animateur, donc j'ai remplacé un animateur visuel en chantant en plus, j'étais le faire-valoir, disons.
Alors les gens savent pas forcément aujourd'hui hein, ce métier d'animateur d'orchestre, mais je me rappelle j'avais reçu dans l'émission plusieurs fois Danny Morris qui s'appelle Danny comme vous, mais qui était aussi un animateur d'orchestre.
C'était un animateur visuel, c'était un mime. Oui. Et après ça s'est un petit peu perdu cette formule. Il valait mieux avoir un parce que Danny Morris ne chantait pas.
Oui.
Il parlait très peu. Il était mime à 100%. Il a travaillé avec Marcel Azola aussi, Jacques Hélian.
Alors il faisait, en mime. Il animait d'une certaine façon donc
il faisait
le concert.
Des sketchs mimés,
le bal.
Voilà. Voilà, oui.
Oui. Et alors vous-même, ça consistait en quoi, donc, votre travail d'animateur sur une scène?
Je me déguisais un petit peu aussi, avec des trucs, il fallait se mettre en clochard, en militaire, en truc, faire le mec bourré, faire des trucs, chanter des chansons gays de l'époque, vous voyez, mais parler surtout, présenter, animer. Il y avait toujours l'élection de Miss Machin au tréfonds de la France profonde, oui. Donc il fallait présenter l'élection de Miss PTT à... À Garges-lès-Gonesse, vous voyez.
Ça fait rêver. Et Daniel Allemand, donc c'est comme ça que vous êtes entré dans l'orchestre de Louis Corchia et vous avez sympathisé tout de suite?
Tout de suite, on a accroché. Il a apprécié le fait que je parlais, que j'animais, que je comme j'avais été chef d'orchestre en province, chef d'orchestre c'est beaucoup dire, responsable d'un petit groupe en province, j'avais quand même une certaine facilité à diriger les musiciens, donc à prendre l'initiative de jouer tel ou tel morceau en l'absence de Louis Corchia, s'il mettait du temps à remonter sur scène, ce qui arrivait pas rarement, mais enfin.
Alors dans les années, donc vous dites 64, là en l'occurrence, c'était une grande vedette déjà, Louis Corchia?
Ah, c'est un des grands noms de l'accordéon populaire, oui.
Oui.
Évidemment, il y avait ceux dont on parle toujours, Aimable Verschuren, mais il y avait aussi Maurice Larchange, Louis Leudrich, Bruno Lorenzoni, Jacques Noguez. Il faisait partie quand même des grands et qui jouaient bien en plus. Pour un accordéoniste populaire, c'est pas le cas de tous.
C'est ça, voilà.
Sans faire de délation.
Le haut de gamme de cet accordéon qu'on dénigre parfois un petit peu quand on aime les choses plus sophistiquées, les viseurs, les Murena. En général, on considère que les grands accordéonistes populaires qu'on voyait à la télé, c'était un peu le bas de gamme, mais c'était pas le cas de Louis Corchia, quoi.
Non, non.
Voilà.
J'ai des noms.
On ne les dira pas. Et une des spécialités, alors, de Louis Corchia, on reviendra aussi, on a écouté une valse en introduction, mais c'était un peu, on peut dire, le répertoire de virtuosité. Hein.
Oui, oui. Il avait travaillé énormément le classique, donc avec Médard Ferrero,
oui.
Jacques Mandel pour l'harmonie, et il s'était spécialisé dans la virtuosité, mais il s'en servait intelligemment, c'était pas uniquement de la technique, quoi. Comme Marcel Azola, c'est de la technique, mais il y a le style, le phrasé, il ne tape pas à la machine, comme je dis vulgairement, ce qui concerne certains accordéonistes virtuoses, mais qui manquent un peu de sensibilité artistique.
Alors on va justement écouter un autre morceau extrait de votre anthologie Louis Corchia, Daniel Allemand. Justement, on peut dire que c'est un morceau de virtuosité, c'est sous-titré pièce de concert, c'est la Czardas du Diable. Un petit mot éventuellement sur ce titre?
Oui, c'est une pièce de concert, ça a été réalisé par Marcel et Kimion et en collaboration avec Albert Reisner, qui n'a pas dû faire grand-chose à mon avis, mais c'est plutôt signé Marcel et Kimion, qui était un accordoniste.
Et c'est enregistré donc par Louis Corchia en 1956.
Thank you.
Jacques Jardas, du diable, c'était Louis Corchia en 1956, un aperçu de son art et donc de sa grande virtuosité, n'est-ce pas, Daniel Allemand, voilà.
Travailler avec Médard Ferrero.
Voilà, le grand maître qui a été aussi celui de Marcel Azola.
Marcel Azola,
hein, avec qui on en a parlé souvent dans cette émission.
Des frères d'Homergue, de Jean Cardon, des gens qui ont fait moins carrière, mais... Ouais. Qu'assurer comme des fous.
Alors, il faut dire que ce nouveau disque qui sort, Daniel Allemand, fait donc partie d'une collection chez Marianne Melody. Ça s'appelle Les Archives de l'accordéon. Vous avez publié combien de titres jusqu'à présent,
hein ? Là, on doit être au 12e ou 13e, oui.
Voilà. Et ce sont à chaque fois des compilations des plus grands accordéonistes avec une sélection de morceaux que vous faites, j'ai envie de dire, librement, selon vos goûts.
Heureusement, oui.
Voilà. Enfin, avec la complicité de j'imagine, de Mathieu Moulin qui anime cette maison de disques.
Il me fait confiance. Entièrement et je le remercie.
Voilà. Et dans cette collection, on retrouve vraiment les chefs-d'œuvre de l'accordéon avec des enregistrements surtout des années 50-60, hein, on peut dire. Donc, Louis Corchia vient de sortir, mais il faut préciser, parce que les auditeurs qui connaissent le nom de Corchia pourraient faire la confusion, que Louis Corchia est le fils d'un autre très grand musicien auquel vous avez consacré un autre disque dans cette collection qui était Primo Corchia.
Oui, grand spécialiste du tango, oui. C'était un accordéoniste, mais il avait une bonne approche du tango, il avait bien compris le style, le phrasier du tango, il s'était spécialisé au bandoneon et monté un orchestre de tango.
C'est lui qui a vraiment presque un peu popularisé pour un certain public en France le répertoire de tango.
De tango, c'était un des orchestres de tango les plus connus avec Taniscala, Mario Melfi, oui c'était les orchestres tango connus.
Et il faut préciser aussi peut-être que Primo Corchia, donc lui, c'était un vrai rital, hein, comme on dirait.
Ah oui. Ah oui, il était maçon, il avait appris, c'est un autodidacte, il avait vraiment appris sur le tas. C'est pourquoi il voulait que son fils soit en pleine possession de toutes sa virtuosité, de sa technique. Et qu'il,
il l'a poussé à travailler avec des bons professeurs, etc.
4 heures par jour. Hein.
4 heures par jour,
ah oui. Le piano d'abord de 5 ans à 10 ans, et à partir de 10 ans, l'accordéon aussi intensément.
Primo Corchia était donc né, je crois, dans la région de Parme. Il est venu s'installer en France. Et c'est comme ça qu'il est sur le tas, presque. Il est arrivé en 1924. Il est devenu donc un grand accordéoniste et surtout donc bandoneoniste.
Oui.
En un temps, on ne jouait pas tellement de bandoneon dans les orchestres français, j'imagine.
Si, il y en avait. C'était pratiquement indispensable dans les dancings de jouer les tangos bandoneon parce qu'il y avait eu tous les Argentins qui étaient arrivés à Paris, les Canaro, les Bianco, Bachicha. Donc, il fallait jouer du bandoneon dans les dancings. Oui.
Il fallait jouer les deux, ah oui, c'est ça.
Ah oui, c'était indispensable.
Et Primo Corchia, donc le père de Louis Corchia, qui nous a quittés en 1997, Primo Corchia, c'était une grande vedette, on peut dire.
Ah oui, c'était l'orchestre tango le plus connu en France, on va dire, les grandes nuits du tango. À l'époque, il y avait les grands bals chics en province, nuits du tango, où ils se partageaient la soirée avec un orchestre de jazz, vous voyez, ou Maxime Sori, ou Claude Luther, ou Revelliotti, ou un orchestre typique, mais c'était les grands bals chics, le tango, c'était, Primo Corchia.
Voilà, le tango, ça faisait pas partie du typique, c'est encore autre chose, le typique. Oui, ce qu'on appelle le typique, c'est...
Le typique, c'est plutôt ce qu'on appelle le latino aujourd'hui.
Le latino, voilà.
Tout ce qui est mambo, cha-cha, boléro.
Voilà, des catégories importantes à connaître pour le répertoire de cette époque. Alors, je propose qu'on écoute, je crois qu'on va avoir juste après au téléphone Louis Corchia qui va évoquer peut-être lui aussi quelques souvenirs de son père. Mais justement, pendant qu'on va essayer de l'appeler, je vous propose d'écouter un titre de Primo Corchia. Ça s'appelle Maria, c'est un très beau tango. Hein.
Grand classique du tango, incontournable, il faut le savoir. Si on joue du bandoneon, si on ne connaît que 20 morceaux bandoneon, il faut connaître Maria d'Annibal Troilo, grand maître du tango.
Un des grands maîtres du tango. Thank you. vient d'entendre donc Maria jouée par le grand Primo Corchia, un tango je crois assez représentatif de son style. Mais pour en parler, j'ai tout de suite justement au téléphone Louis Corchia. Bonjour Louis Corchia.
Bonjour, bonjour.
Alors Louis Corchia, merci d'être avec nous au téléphone. Je me demandais d'abord, puisqu'on vient d'entendre une musique de votre père, Primo Corchia, c'est un homme qui j'imagine vous a beaucoup marqué, vous a façonné, vous gardez quel souvenir musical de votre père ?
Eh ben, écoutez, mon père, en deux mots, il est arrivé en France, il avait 22 ans. Il jouait pas de musique du tout. Il a commencé l'accordéon à 22 ans. Et jusqu'au jour, tout seul, il a pris tout seul. Jusqu'un jour, il y a un musicien qui lui dit, mais écoute, prends des cours, parce que c'est pas possible de jouer comme ça, quoi. Alors, il a pris des cours, et puis, petit à petit, il a travaillé. Il a laissé l'accordéon pour prendre le bandoneon, puisque le tango, c'est le bandoneon.
C'est ça.
Et puis voilà, il s'est fait le nom qu'il s'est fait. Je suis moi rentré le premier chez Vogue, j'avais 16 ans. Et lui, il m'a suivi derrière, et il est rentré chez Vogue, il a vendu beaucoup de disques de tango. Voilà.
Il s'est beaucoup intéressé à votre formation de musicien.
Vous savez, si j'avais pas eu mon père, je ne serais pas là. Il m'a mis déjà dans la main des professeurs d'accordéon les plus cotés, quoi. Et puis en plus de ça, j'envoyais, il me faisait travailler. J'étais pas souvent dans la rue, j'étais souvent derrière le piano.
Il était sévère.
Bien sûr.
Oui.
Mais il m'a remarqué qu'il m'a rendu service, j'ai pas regretté après. Mais moi j'ai commencé par le piano. J'ai commencé à jouer du piano, à travailler le piano, j'avais 5 ans. Ouais. Il m'a dit, quand tu auras gagné les concours Nérini, parce qu'à l'époque, il y avait des concours de piano Nérini, quand tu auras gagné dans toutes les catégories, je t'offrirai un accordéon, parce que moi, je voulais jouer d'accordéon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai gagné tous les concours Nérini. Et à 10 ans, il m'a offert mon premier accordéon.
Alors, vous avez gagné beaucoup de concours, effectivement, Louis Corchia, tout de suite après la guerre, dès 1946, 48, 49, 51, en France, à l'étranger. Et en fait, vous étiez plutôt, on peut dire, spécialisé à ce moment-là dans le répertoire qu'on dit de virtuosité, quoi.
Oui, c'est-à-dire un répertoire classique, quoi.
Oui.
Je jouais des œuvres de Rossini, je jouais des œuvres de Bach. À l'époque, je jouais du classique.
Ah oui.
Bien sûr, classique. Et je travaillais des œuvres, j'ai gagné du reste la Coupe mondiale, j'avais 16 ans, avec la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach.
Mais assez tôt, vous avez quand même eu aussi le goût, je crois, vous avez toujours gardé d'ailleurs un certain amour pour l'ambiance du dancing et des soirées plus populaires d'accordéon.
Bien sûr, mais je suis né dans un dancing.
Ah bon?
Oui, mes parents, ma mère, elle tenait un dancing à Fontenay-sous-Bois. Et évidemment, et mon père faisait venir évidemment à l'époque tous les noms de l'accordéon dans ce dancing. Et moi, j'étais au pied de l'estrade. Et je ratais pas une, quoi. Ah non, mais je suis né dans un dancing, et c'est pour ça qu'après, je voulais, après le classique, que je me suis mis à la danse, quoi. Ouais. À faire danser les gens, quoi.
Et vous aimez aller faire des balles en province, vous en avez fait beaucoup à l'époque,
Oh ben, vous savez, j'en faisais à peu près 90 à 100 par an.
Voilà, c'est ça, oui.
Ah ouais, j'ai beaucoup, beaucoup roulé, beaucoup fait de kilomètres, et à l'époque, on tournait, parce que maintenant, ça a bien changé, tous ces balles, ils travaillent à deux ou trois. Mais nous, on était 7 ou 8 dans l'orchestre, et avec chauffeur, carcouchette et tout, on enchaînait, si vous voulez, Paris, et le lendemain, on était à Toulon, quoi.
Mais alors, quand j'écoute vos enregistrements, là, qui viennent d'être assemblés par Dany Lallement, moi, je suis frappé aussi que vous êtes quand même, pour jouer des valses swing, pour jouer des choses un peu plus jazz, vous êtes vraiment un maître aussi. En fait, vous aimez ça autant que le répertoire de virtuose ou de typique ou de bal, quoi.
Ben, vous savez, oui, dans l'accordéon, moi, il y a le répertoire musette, ce qu'on appelle.
Oui.
Il y a le répertoire, classique.
Oui.
Les accordéonistes, maintenant, jouent du classique, jouent de musette, jouent du jazz. Et il y a le répertoire de jazz. Mais les accordéons ne sont pas accordés de la même manière.
Ah oui.
Quand on veut jouer du musette, on prend un accordéon à vibration. Ce qu'on peut pas prendre pour jouer du jazz, c'est pas possible. Il y a deux sortes d'accordéons. Il y a l'accordéon à vibration et puis l'accordéon sans vibration.
C'est ça.
Ce qu'on appelle accordage américain. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, le Musette, c'est fait pour jouer tous les classiques du Musette, au bas d'oiseau, Reine de Musette et tout ça, quoi. Et puis, l'accordéon sans vibration, on peut jouer du jazz, on peut jouer du typique, on peut jouer, voilà.
Et vous aimez, vous aimez le jazz, hein?
Ah ben, j'adore. Ouais. Vous savez, mon style, ça serait plutôt vers le jazz, hein.
Ouais.
Mais, pour les gens, bon, les gens n'aiment pas toujours, les amateurs d'accordéon n'aiment pas toujours le jazz. Alors, bon, alors je faisais, si vous voulez, je voulais plaire à toute la clientèle qui venait me voir, et je faisais jazz et musette.
Voilà. Voilà. Et vous étiez assez copains aussi, je pense, de tous les Azola, les Viseurs, les Privas et tous ces gens qui faisaient aussi beaucoup de jazz.
Ah, bah, c'était des amis.
Ouais, c'est
avec
ça.
Avec Marcel, quand j'étais gosse, quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans, on avait monté un duo avec Marcel Azola. Et on se produisait sur scène en duo.
Ah, voilà, oui, il faut qu'on retrouve ça. Mais en tout cas, voilà, bah merci Louis Corchia pour toutes ces précisions. Juste un petit mot, peut-être avant de nous quitter, sur Dany l'Allemand.
Ah, bah Dany, c'était mon premier. C'était, bon, on est compte, 33 ans de carrière avec Dany. C'était, et puis alors, c'est une encyclopédie.
Exactement.
on lui demande, il connaît tout, c'est formidable.
Bon,
et puis, alors, un garçon, 33 ans, jamais un mot, et toujours à l'heure, très correct, formidable.
Merci, Louis Corchia. J'espère que quand vous serez guéri, vous viendrez, et qu'il n'y aura plus de problème d'embouteillage, vous viendrez pour de vrai à l'émission.
Mais avec grand plaisir, ça fera plaisir.
Merci, au revoir.
Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, merci. Et meilleurs voeux à tous vos auditeurs.
La roulotte, un très beau titre jazz, justement. Il vient de nous dire combien il aimait le jazz, hein, joué par Louis Corchia. Alors ça, c'est dans la compilation Paris Musette, c'est cette série de disques relancée par des passionnés de musette dans les années 90 et qui a bien compté aussi pour faire revivre ce style Dany l'Allemand.
Ah oui.
Mais vous avez dans votre compilation une version beaucoup plus ancienne de ce titre, La roulotte.
J'ai la toute première, moi, qui a été faite sur un tout petit label. Pour question de droit, je n'ai pu éditer que celle-là, cette première version.
Oui.
cette dernière-là est d'une
belle,
qualité
hein.
supérieure, oui.
Ouais, très...
De par la qualité de l'enregistrement, puis la technique, le métier, il y a plein de choses qui sont rajoutées là-dessus.
Voilà, mais ça a été en tout cas un moment important de retour de l'intérêt pour l'accordéon. Justement, vous avez entendu, comme moi, votre ami Louis Corchia à l'instant. Alors d'abord, j'ai noté que pour lui, une des qualités importantes d'un musicien d'orchestre, à part de bien jouer de la musique, c'est d'être toujours à l'heure.
Alors, je veux être le meilleur, là, alors.
C'est vrai.
Ce qui n'est pas forcément le cas au saxophone.
Vous n'avez jamais arrivé en retard en 33 ans pour
une répétition ou
un gala.
Je ne supporte pas d'attendre, je ne veux pas faire attendre non plus.
Voilà. Et puis
le travail, c'est sérieux.
Il nous parlait aussi justement de l'opposition entre alors ce fameux registre vibration qui a un petit peu, à une époque, dénaturé le style de l'accordéon, on peut le dire. Hein.
Personne ne peut détester plus que moi cette sonorité-là. L'accordéon vibration, j'y suis allergique, comme c'est pas possible d'être allergique, moi.
Oui.
J'ai tendance à être un peu excessif, à sublimer ou détester. Vous voyez, j'ai pas trop de nuances. Et vraiment, l'accordéon vibration, je déteste.
Mais Louis Corchia n'aimait pas beaucoup non plus.
Oui, il en jouait très, très, très rarement.
Très rarement
quand on lui demandait, il avait un accordéon vibration. Alors, si les gens l'avaient peut-être entendu jouer une note, ils insistaient pour qu'il rejoue. Celui-là.
Mais ça fait beaucoup de bruit, ça couvre tout, et c'est ce qu'on entendait beaucoup à une époque, en tout cas.
C'est désaccordé, quoi. C'est à l'accordéon ce que le piano massacre est au piano, quoi. C'est désaccordé, mais le piano massacre, c'est marrant parce qu'on s'en sert dans des cas bien précis pour des évocations.
C'est quoi le piano massacre?
Le piano bastringue, quoi.
Ah oui, le bastringue, oui.
Les bastringos, on les aime gros bois,
bien sûr.
Voilà.
Cher à notre regretté Pierre-Marcel Onder.
Oui.
En tout cas, Daniel Allemand, voilà, vous êtes avec nous ce matin pour saluer Louis Corchia, en attendant qu'il soit en meilleure forme et qu'il vienne directement au studio, peut-être avec vous à nouveau.
Avec plaisir.
Mais on va aussi revenir, oui, à vos collections, vos compilations. Alors, je disais tout à l'heure que la dernière parue avec celle de Louis Corchia, c'est celle des chansons du cinéma français. Et il y a dans cette compilation une chanson interprétée par Georges Guettari, qui est très jolie. J'avais envie de la passer parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui aiment beaucoup Georges Guettari. Mais dites-moi juste, vous êtes aussi un fan de Guettari, hein ?
Oui, j'adore, oui. Maintenant, encore plus que quand il était une grande vedette, j'aimais plutôt à l'époque Georges Hulmer, Yves Montand, Mouloudji, Brassens, bien sûr, Félix Leclerc.
Des choses considérées comme un peu plus sophistiquées.
Voilà, oui. Donc ça me plaisait mieux. Mais sur le tard, d'autant que j'ai eu la chance de le connaître quand j'ai travaillé chez Paul Becher pendant 23 ans.
Comme
archiviste, je m'occupais de tout ce qui était partition séparée. Ouais. Donc je l'ai connu, on n'était pas amis, mais presque. Il était très très gentil avec moi, et je l'aimais beaucoup.
Voilà, et alors cette chanson que vous avez fait figurer dans votre anthologie du cinéma, c'est quoi plus précisément ?
La chanson s'appelle « La gamme et l'amour », c'est chanté dans son deuxième grand film qui s'appelle « 30 et 40 », le premier étant « Le cavalier noir ».« 30 et 40 », un film de Gilles Grangier, avec lequel il en a fait d'autres après. Et il chante « La gamme et l'amour », une chanson de Jacques Larue, un beau texte pour un professionnel sur une musique de Louis Guy. Un film donc « 30 et 40 » de 1945.
Mi fa sol fa mi ré do, chérie. N'avez-vous jamais sur le piano compris de chaque note le langage? Tant d'amoureux les ont chantés, chacune a son identité. Mais approchez-vous un peu plus près, que je vous apprenne leur secret. Le do c'est l'amour, le ré c'est toujours, et c'est vous mamie. Le fa c'est mon cœur, le sol j'en ai peur, c'est une folie. Le la dit tout bas, si votre cœur bat, que c'est pour la vie. Venez dans mes bras, ce petit air là, mon cœur le dira bien mieux. La gamme et l'amour s'accordent toujours pour les amoureux. Quand on a 20 ans et qu'on apprend le chant,
La clé la meilleure, c'est la clé des champs. Venez donc voir le paysage. On comprend vite l'harmonie en écoutant chanter les nids. Et pour mieux vous mettre à ma portée, après ce point d'orgue répété, le do c'est l'amour, le ré c'est toujours, et c'est vous ma mie. Le fa c'est mon cœur, le sol j'en ai peur, c'est une folie. Le la dit tout bas, si votre cœur bat, que c'est pour la vie. Venez dans mes bras, ce petit air là, mon cœur le dira bien mieux. La gamme et l'amour s'accordent toujours pour les amoureux. Le do, c'est l'amour, le ré, c'est toujours, et c'est ma mine. Le fa, c'est mon cœur, le sol, j'en ai peur, c'est une folie. Le la dit tout bas, si votre cœur bat, que c'est pour la vie. Venez dans mes bras, ce petit air-là, mon cœur le dira bien mieux, bien mieux. La gamme et l'amour s'accordent toujours pour les amoureux.
La gamme et l'amour, belle chanson hein, de Guettari, enfin interprétée par Guettari.
Ah, moi, je suis un inconditionnel aussi.
Inconditionnel.
Oui, aussi, oui.
Voilà. Et c'est extrait donc de Les chansons du cinéma français. Il y a 4 CD, je crois, de 1930 à 1962. C'est paru chez Frémaux et Associés. Et puis donc, plus récemment encore, votre compilation consacrée à Louis Corchien. On va y revenir, est paru dans les archives de l'accordéon chez Marianne Mélodie. On va y revenir, mais vous avez une autre passion qui n'est ni lié à l'accordéon, ni lié au cinéma, Daniel Allemand, c'est notre chère Isabelle Aubray.
Un inconditionnel, dès la première fois où elle a mis le pied dans un studio d'enregistrement.
C'est vrai.
Dès que j'ai entendu les premiers disques, c'était la passion. C'est viscéral.
C'est viscéral.
Je vais peut-être pleurer à la fin de la chanson. Là.
Mais vous l'avez repéré dès ses premiers enregistrements?
Oui, oui. Alors que j'étais passionné pour la chanson, les chanteuses des années précédentes, les Patachoux, les Jacqueline
d'Auberstoine,
Jacqueline François, oui, Mick Michel. Tous ces gens-là que j'adorais, il y en a brun, mais...
Vous étiez moins yéyé comme style?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Je me caricature en disant, la musique moi, s'est arrêtée à l'automne 1958, vous voyez.
Ah, voilà. Mais Isabelle Aubray est arrivée.
C'est l'exception. Et depuis, il y a qu'elle.
C'est vrai, j'avais eu la joie de la recevoir ici même. J'imagine que vous la connaissez.
Très bien, oui. J'ai même eu présenté un de ses disques chez Universal, oui.
Voilà. Alors pour vous, on est là pour se faire plaisir. Et à vous d'abord. et on va écouter un titre d'Isabelle Aubray enregistré, je crois, en 2011 en public. Hein.
Oui. Je ne sais pas si celui-là est enregistré en public. En tout cas, il est passé quand elle s'est produite au Palais des Sports en 2011. C'est un super bel hommage à Jean Ferrat.
À Jean Ferrat, ça s'appelle Sa Montagne.
Oui. Hein. Paroles d'Alain Leprest, musique de Romain Didier.
Il vit au pied de sa montagne, les mains sur le front gris d'un âne, entouré de ronces et de chèvres, une bruyère entre les lèvres, le cœur traversé de rivières, il écoute le chant des pierres. Et un refrain se met en marche sur le sentier de sa moustache. Il vit adossé à la roche dans un vieux pull qui s'effiloche. Au fil du temps et des épines, sous les incendies de collines, trinquant des glaçons de cassis avec des pêcheurs d'écrevisses. sous les étoiles, saltimbanques qui font des parties de pétanque. Il vit au pied de sa montagne, il vit pour un brelan de dames. Pour du vent et pour quelques truites, pour un plat de châtaigne cuite. C'est un drôle d'académicien qui lit des poèmes à ses chiens, regardant les neiges d'Ardèche semer des flocons sur ses mèches. Au pied de sa montagne, l'oreille ouverte au grand vacarme, qui lèche l'envers de la pente quand la terre s'ouvre de ventre. Il vit un chardon dans le poids, le monde entier dans son jardin. Sous les quatre vents qui fredonnent, la chanson fragile des âmes. Entre la volane et les flammes, il vit au pied de sa montagne.
Sa montagne, vous voyez, c'était bien en public, donc Daniel Allemand, on entend les applaudissements.
C'est peut-être un montage.
Oui, vous connaissez mieux que moi tous les secrets du disque. C'était donc Isabelle Aubray en 2011, votre chère Isabelle Aubray, dont vous avez à peu près tous les disques. Je ne sais pas si vous continuez, cela dit, d'agrandir.
Vous... J'ai les disques en triple.
Ah, vous les avez en triple.
Parce que je suis un soucieux, un inquiet permanent, donc j'ai peur du vol, de l'incendie... Donc j'ai des disques en trois endroits différents, des gens que j'adore, j'ai trois fois le même exemplaire.
Oui, mais quand on sait le prix de l'immobilier parisien et qu'on a 50 000 disques chez soi, comment ça va pas être simple,
hein? Il faut stocker, il faut serrer. Sais où ils sont, mais le tout c'est d'y accéder.
D'y accéder, mais vous continuez d'agrandir votre collection
aujourd'hui? Oui, je suis un fou.
Ah oui?
Oui, incontrôlable.
Mais y compris via des CD, des disques aussi, numériques,
Oui, parce que je fais un certain cinéma aussi en DVD, donc oui. Les photos, les affiches, les partitions.
Et alors, je voudrais d'ailleurs qu'on mentionne à ce propos les dernières parutions de votre collection Les Archives de l'Accordéon, puisqu'on parle beaucoup d'accordéon ce matin. D'abord, un des derniers parus, c'était Freddy Balta, hein, qu'on connaît mal aujourd'hui peut-être.
Oui, c'était le premier requin de l'accordéon. Toutes les séances à l'accordéon se faisaient avec Freddy Balta. Il était incontournable avant que Marcel Azola n'arrive sur le marché, Gilbert Roussel, José Baselli, ceux qui se partageaient les séances. Il était pratiquement le seul, Émile Descoty en faisait quelques-unes, mais rien à voir avec la précision de Freddy Balta, qui était l'accompagnateur d'Yves Montand aussi très longtemps.
Mais on se demande souvent, quand on écoute tous ces beaux disques de chansons françaises, qui est l'accordéoniste? C'est rarement indiqué sur le disque.
Oui. Yves Montand, c'est précisé. On sait quoi que l'ensemble Freddy, Bob Castella, il y avait Freddy Balta à l'accordéon, Crolla à la guitare, Soudu à la basse.
Et moi, quand j'écoute le petit bal perdu de Bourville, à chaque fois, je me dis, mais qui c'est l'accordéoniste?
Mais je ne le sais toujours pas. J'ai posé la question à Marcel, il m'a dit, non, c'est pas moi. Ah. Alors, je pense que c'est Gilbert Roussel, moi. Mais comme il est mort, j'ai jamais pu lui poser la question.
Et alors, donc, Louis Corchia lui-même a fait une carrière comme accordéoniste de studio et d'accompagnateur de chanteurs ou pas?
De studio, très peu. Il joue derrière John Williams dans la version Si toi aussi tu m'abandonnes. Donc, c'est en 52. Vous voyez, il avait donc 17 ans. Il remplaçait justement Freddy Balta.
Dans l'orchestre Valberg.
Voilà. Pour les besoins de cette séance-là, oui. Il a accompagné, mais pas sur disque. Il a accompagné Germaine Montero dans Mère Courage. Il est accompagnateur de Robert Ripa parce qu'il était chez Vogue, comme lui. Vous voyez, Paul Perry, Michel.
On peut dire qu'au fond, c'est plutôt Louis Corchia, un accordéoniste qui aime le contact avec le public d'une certaine façon.
Oui. Sa vie, c'est le public. Oui.
C'est ça, comme il nous le disait tout à l'heure. Et alors, vous avez été amené donc ensemble à jouer dans des endroits assez étonnants, comme par exemple le Waldorf Astoria à New York.
Oui, le Stratler Hilton. On a fait deux fois New York. C'était le bal du stade breton, du football, des Bretons.
C'est vrai qu'il y a énormément de Bretons à New York, c'est vrai. Oui,
oui, qui faisait donc un bal annuel. Mais un côté officiel, il fallait chanter la Marseillaise. J'ai chanté la Marseillaise, couplet-refrain, vous voyez, c'était... je jouais même de la bombarde, j'avais appris, comme je bricole un peu du hautbois aussi. Donc
aussi du haut.
J'avais appris.
La liste s'agrandit.
Deux, trois ridées à la bombarde. Je jouais des gavottes et des ridées bretonnes.
Voilà, c'est un bon souvenir, j'imagine, ce voyage à New York.
On est resté une semaine pour faire une petite soirée de 4 heures, quoi.
Et puis, il y a eu également les grandes soirées parisiennes d'Yves Mourouzi aux Tuileries.
Les Tuileries, ouais, là, il y avait du monde. Là, j'avais la trouille. Hein.
C'est vrai.
Là, c'est très impressionnant, un monde pareil. Là, faut pas en craquer une. Vous faites la coda de Petite Fleur, vous loupez la dernière, là.
Ah oui? À quel instrument, ça?
Au soprano, au saxo-soprano.
Saxophone-soprano.
Là, faut serrer les fesses, hein, vulgairement parlant.
Alors, peut-être pour écouter un aspect un peu différent du répertoire de Louis Corchia, je ne sais pas dans quelle catégorie c'est, mais enfin, c'est, voilà, la polka, c'est un grand, grand rythme du répertoire d'accordéon, on peut dire. Hein.
Oui, c'est prétexte à virtuosité, oui, c'est prétexte des morceaux de virtuosité. C'est tout en double croche, hein, des deux temps en double croche.
Voilà. Donc, alors, il y a beaucoup de polka variations, etc. Oui.
À l'instar de Père de Cristal, des triolets, de toutes ces polkas.
Voilà. Et celle-ci s'appelle La Louisette et c'est une composition de Louis Corchia. La Louisette, une polka de et par Louis Corchia. C'est d'ailleurs le dernier titre de votre compilation, Daniel Allemand, Louis Corchia, dans les archives de l'accordéon chez Marianne Mélodie. Et vraiment, je le recommande beaucoup à tous les auditeurs. Le cher Louis Corchia qu'on a eu au téléphone tout à l'heure et qui reviendra, j'espère, à l'émission, il joue plus énormément aujourd'hui, hein, Daniel
Allemand. Non, il a quand même quelques problèmes de santé, donc ouais. Il évite. L'accordéon, c'est lourd à porter, oui, et donc... Oui.
Il Donc il remplace ralenti. Par la pétanque et par les, la belote.
Il tape le carton, comme on dit à Paris et ailleurs. Et la pétanque, même la pétanque, c'est un peu dur aussi, mais enfin...
Ah oui. Bon, écoutez, en tout cas, bravo pour cette compilation qui vient, oui, de paraître chez Marianne Mélodie, mais il y en a une autre qui va suivre bientôt, c'est Charles Verstraat.
La prochaine, c'est Charles Verstraat à l'accordéon, oui.
Alors, rappelez-nous...
Bien qu'il jouât avec un registre vibration, ce qui est curieux pour un jazzman.
Ah oui.
Parce qu'il est tromboniste de jazz, il était de toutes les séances au trombone avec les basseurs et Paquinet, et l'accordéon, il l'entend en vibration. Il a fait son premier disque sans vibration, couleur Gus Wieser, et après il a toujours joué avec un accordéon vibration.
Mais c'est une vibration que vous supportez là pour le coup, Daniel Allemand.
Comme on était très très amis, j'ai évité de lui en parler de façon désagréable.
Mais c'est un grand musicien, Charles Verstraat. Ben
c'est un super trombone, oui. L'oreille absolue aussi, grand musicien. Mais on lui a imposé sans doute chez Philippe, chez Pacifique, Barclay, la vibration.
Voilà. Alors vous avez aussi, d'ailleurs, vous avez prononcé le mot trombone, mais vous avez une collection chez Marianne Mélodie sur les instruments. Vous venez de sortir justement un disque du trombone. Hein.
Voilà, où j'ai mis essentiellement des musiciens français, oui, ceux dont j'ai parlé, Benny Vasseur, André Paquinet, Charles Verstraat, et puis quelques gens du jazz, Dickie Wells, Juan Tizol, pardon.
Ah bah, le grand Juan Tizol,
le complice de Duke Ellington. Bien sûr.
Bien sûr. Alors voilà, vous voyez, vous n'arrêtez pas, et ça nous fait plaisir, parce que ça nous fait des beaux disques qui sortent régulièrement. Donc vous reviendrez, j'espère, bientôt, cher Dany. Mais on va se quitter avec un dernier titre de Louis Corchia, que je crois il aime beaucoup. Hein. Ce titre, c'est La danse du sable de Cacciatore.
Ah oui, on l'a joué systématiquement tous les galas pendant 30 ans, oui.
Voilà.
Donc, c'était un arrangement, c'est
le groupe
la transcription du groupe Les Exceptions.
Ouais, moi, je me rappelle le 45 tours.
Le passage
tours.
Au milieu qui devait être joué au clavier était transcrit pour l'accordéon.
Voilà, et ben donc on se quitte avec cette danse du sabre. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Tout plaisir était pour moi.
La fameuse danse du sabre de Khatchaturian par Louis Korchia. Louis Korchia dont nous avons longuement parlé ce matin avec Dany Lallemand, ici même au studio, et puis aussi d'ailleurs Louis Korchia qui était avec nous au téléphone à l'occasion donc de la parution de ce disque chez Marianne Melody, Louis Korchia, dans la collection Les Archives de l'Accordéon. Salut à Auguste Bournonville, c'est le titre de ce galop de Hans Christian Lumbi, qu'on surnommait parfois le Strauss du Nord, voilà. Et si je voulais passer, eh bien c'est parce que vous savez, dans quelques jours, c'est le concert du Nouvel An. Et justement, au programme cette année du concert du Nouvel An viennois, eh bien il y aura une musique de Hans Christian Lumbi, le galop du Postillon, et puis d'autres, évidemment, toute la famille Strauss, Johann Père, Johann Fils, Joseph, Edouard, et encore d'autres compositeurs. Ce sera sur France Musique mercredi matin. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous le présenter moi-même, puisque après quelques années, on peut dire, de séparation, c'est le retour du mariage France Musique, France Télévisions, donc pour la diffusion en direct mercredi prochain à 11h15 de ce concert du Nouvel An 2020.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis avant de retrouver notre ami Serge Elaïc, eh bien je voudrais encore vous parler d'une petite actualité discrète et pourtant charmante, une actualité discographique. C'est un disque qui s'intitule « Vacances à Tataouine ». C'est un petit opéra pour enfants et avec enfants que j'ai reçu avec beaucoup de joie, des historiettes musicales écrites par Agathe Lemaire-Talazac. C'est une femme pleine de fantaisie, à la fois peintre, auteur, illustratrice, et qui a monté tout cela avec un compositeur italien, Paolo Furlani. Alors il y a une première version donc de ce conte musical qui vient de sortir en disque avant peut-être, je l'espère, une production scénique qui est en train de se préparer. Je vous propose d'écouter tout de suite un petit extrait de ses vacances à Tataouine.
Cyclamène haussa les épaules, redressa son claque-oreille qui lui tombait sur les yeux, le fixa avec un morceau de Chatterton géranium, s'éclaircit la voix, leva la main droite au-dessus de la tête... Et le cœur chanta.
Avec mes moustaches. n'écraserai plus les araignées amphibies. Tant pis si c'est une tragédie. Je préfère le murmure de l'eau qui glisse dans l'air chaud. À toi, Lila.
Dans l'herbe sèche des jardins, poussait la rose, le jasmin. Je ne serai plus jamais sage dans ce nouveau livre d'images.
Il y a de l'amour dans l'air, et bla, et bla, et bla. Satyros, on part quand? C'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Un extrait de Vacances à Tataouine, ce CD qui vient de paraître chez Chanteloup Musique. Je le dis d'autant plus volontiers que parmi les interprètes que vous venez d'entendre, il y a la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Et on sait que cette maîtrise aujourd'hui, après l'accident de Notre-Dame, elle est un petit peu en difficulté. J'ai lu un appel comme ça de personnalité dans le Figaro qui s'inquiétait de la situation de la musique à Notre-Dame de Paris, évidemment pour l'instant suspendue, et aussi de l'avenir de cette maîtrise. Alors il faut veiller sur cette belle institution et en tout cas... Moi, je vous recommande d'écouter Vacances à Tataouine, 11 historiettes musicales récemment parues chez Chanteloup Musique. Mais vous l'avez reconnu, cette musique, elle annonce toujours une bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Serge et Laïc.
Bonjour voilà. Serge. En traîneau.
En traîneau. Vous connaissez Tani l'Allemand, j'imagine.
Mais oui, depuis très longtemps.
Depuis très longtemps. Vous êtes un autre grand collectionneur de disques.
J'ai bien aimé sa définition de lui-même en disant que c'était un maniaco-dépressif.
Alors vous aussi, vous êtes par certains côtés un angoissé du disque,
ben voilà.
Mais vous veillez sur vos collections et c'est grâce à ça que vous pouvez nous réjouir régulièrement à ce micro.
Voilà, et bien je vous propose de terminer en musique cette année 2019 sur des pistes enneigées avec tout d'abord le grand orchestre d'André Kostelanets, américain d'origine russe. Il ouvre la voie avec « Let it snow, let it snow, let it snow ». Et pour la petite histoire, il fut longtemps marié à Lily Ponce, André Kostelanets, donc la renommée et soprano oui. Lily Ponce.
Let it snow. J'adore, mais alors vraiment magnifique ces arrangements, Serge et Laïc. André Kostelanets en 1963, et en plus c'était le mari de Lily Ponce.
Exactement. Alors ce voyage musical hivernal se poursuit avec l'entrée en piste, enneigée bien sûr, cher Benoît, du violoniste britannique George Melacrino à la tête d'une formation avec laquelle il va enregistrer d'ailleurs, comme Kostelanets, d'innombrables albums. Malheureusement, il décédera accidentellement en 1965. Alors, ses arrangements du classique Rudolf le Petit Renne au nez rouge sont particulièrement lumineux. Thank you.
Mais oui, bien sûr, vous l'avez tous reconnu, c'était Rudolf, le renne au nez rouge. Voilà le titre de Georges Mélacrino et son orchestre en 1959, choisi pour nous par Serge Laïc.
Alors, retour en France, Benoît, avec Paul Bonneau, que vous connaissez bien au niveau musical, chef d'orchestre qui aurait eu 101 ans cette année en 2019.
Et on va refaire une émission sur lui un de ces jours,
Tout à fait, je sais. Alors, Paul avait enregistré une multitude de pièces légères, tant ses propres compositions que celles d'autres musiciens comme Valberg, André Pop, très en vue en ce moment, on en parle beaucoup, et peut-être moins connu, Pierre de Vevey, dont Paul Bonneau, avec son style reconnaissable entre tous, interprète « Jeux d'hiver ».
Eh bien, dis donc, vous m'avez donné encore plus envie de refaire une émission, Paul Bonneau, Serge Lecq. On invitera son fils, Christian Bonneau, qui est aussi un bon archiviste.
Tout à fait, il connaît la carrière de son père de façon phénoménale. Alors, un nouveau son en Grande-Bretagne, après Mélacrino, donc, on va retrouver La Neige et ses flocons créés par Nigel Ogden, qui joue sur l'orgue Wurlitzer d'une grande salle de concert de Manchester.
Ce flocon de neige, c'était Nigel Ogden.
Ogden, oui.
Alors, Wurlitzer de la salle Free Trade Hall de Manchester, Serge Leitch.
Et oui, alors, on continue avec l'Américain Richard Heyman. Il fut un excellent harmoniciste avant de débuter sa carrière de chef d'orchestre. Et d'ailleurs, sa collaboration comme arrangeur pour Arthur Fiedler et le Boston Pops Orchestra restera un des sommets de sa carrière. Richard Heyman aimait beaucoup écrire des arrangements qui mêlaient harmonica qu'il interprétait lui-même et un orchestre semi-symphonique. Voici un exemple de cette formule avec sa version du traditionnel Winter Wonderland.
Et c'était l'harmoniciste Richard Heyman, harmoniciste et chef d'orchestre en 1989 dans Winter Wonderland, à ne pas confondre d'ailleurs avec le Richard Heyman d'avant-guerre qui a écrit beaucoup de chansons célèbres, Serge Leitch.
Exactement. Alors Benoît, je terminerai cette chronique en vous offrant un verre de champagne, évidemment. Là, en compagnie du Tivoli Symphony Orchestra, qui joue Champagne Gallo, musique signée par le Danois Hans Christian Lumbi. Je vais répéter, le Strauss du Nord.
Thank you.
Le célèbre champagne gallo d'Hans Christian Lumbi par l'orchestre symphonique Tivoli en 1998. Merci, cher Gélaïque.
Merci, et comme ça, Benoît.
Vous avez en plus préparé pour le concert du Nouvel An où Lumbi sera à l'affiche. Ce sera mercredi prochain. À bientôt, Serge.
Merci, Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Adelino Mello et Ludovic Auger, réalisation Max James. Et la semaine prochaine, ce sera un spécial cabaret avec Jacques Maillot et Florence Brunold. Voilà, rendez-vous samedi prochain. Vous avez rendez-vous maintenant sur France Musique avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.